En direct, ça commence dans très bientôt après l'introduction. En direct de ma cuisine de Rosemont, Montréal. Là, avertissez-moi si le son, on a des problèmes techniques. Mais j'ai l'impression que tout est correct parce que ça fait des heures que je suis en train de tout retaper, la configuration. Ici, on reçoit aujourd'hui, tenez-vous bien, Samuel Descaries-Drolet, le couteau suisse de la boxe québécoise. Samuel qui peut tout faire. Il peut te prendre bébé naissant puis te monter. Champion du monde, il a touché à tout dans la boxe. On va en parler. Je vais aller lire les commentaires s'il y a des plaintes. Le son est bon. Demain, il y a un pay-per-view. Là, je vais vous assommer. Ça coûte cher être fan de boxe. Demain, sur Fit.tv, il y a Liam Williams contre Chris Eubank Jr. et Clarissa Shields contre Emma Cousins. Ça coûte 39,95 US. Puis en soirée, il y a Keith Thurman contre Mario Barrios, ça coûte 69 $ US, 105 $ canadiens. Keith Thurman, qui est plus petit que Barrios, ça m'a surpris. Barrios vient des 140 livres, ça va être assurément un grand combat, mais gardez donc les 105 $ dans vos poches. On a appris aujourd'hui que Ryan Garcia allait affronter Emmanuel Tago. Tago qui est classé à la IBF et. C'est fini pour les actualités. On reçoit aujourd'hui Samuel Descaries-Drolet. Hey Sam, peux-tu tourner ton téléphone d'abord comme ça on va te voir en grand?
Oh, je suis passé par ça.
Ouais, c'est ça. Non, mais
Oupala.
quand on a
Je ne
la
sais pas
chance
si ça va
d'être
tenir. J'attends le
quand on a
son.
la chance d'être bel homme, on essaie d'être plus grand sur l'écran.
Tiens, c'est bon comme ça?
Bon, ouais, juste en haut de moi, Farley Avocat, c'est fait. J'ai mon 600 $ de commandite qui va rentrer. Hey Sam, je suis content de t'avoir. Ça fait des semaines que je t'harcèle pour t'avoir en entrevue. Je vais t'expliquer pourquoi. Okay? C'est parce que moi, j'aimerais ça avoir un entraîneur en entrevue, mais que je me sens proche. Comme ça, je peux poser n'importe quelle question. Tu sais, je suis pas encore assez ami avec Marc puis Stéphane Larouche et je vais recevoir la deuxième génération. Puis là, je vais pouvoir me gâter.
Vas-y,
Sam.
garde-toi.
Samuel Descaries-Drolet, ceux qui ne le connaissent pas, tu es avec Eye of the Tiger Management, tu es avec Rival Boxing, tu es partout dans le fond. Il y a un galop de boxe, tu vas finir par être sur place. Tu es entraîneur et là, 2021, ça a comme pris ta carrière d'entraîneur puis ça l'a propulsé. On va en parler tantôt. Tu es cutman et j'ai fait mes vérifications. On m'a dit que tu étais très bon. Mais que tu étais très précis. Fait que des fois, c'est un peu plus long quand tu répares quelque chose. Ça
Je
se
répare
peut-tu?
quelque chose.
Mettons, tu répares un œil. Mettons, tu répares un œil, tu vas bien le faire, mais ça va être un petit peu plus long
Ben en
que.
fait, t'as juste une minute entre les rondes. Fait que ça peut pas être vraiment
Ouais,
plus
non,
long.
mais je pense que si je me fais un œil, mettons, à soir, tu viens me
Ouais,
réparer
ouais.
ça chez nous, tu vas prendre ton temps. Ouais.
Ah, mais c'est parce que tu sais quoi, t'es tellement beau bonhomme, je voudrais pas te maganer. Fait que si je prends
Ouais,
pas
ça,
mon temps.
on va en parler tantôt. OK, j'ai fait un petit sondage.
Si je prends pas mon temps, ça peut laisser une cicatrice. Je peux botter, si je botche la job, ça peut laisser une cicatrice après. Mais là, t'as-tu vu ça, cette face-là, je peux pas manquer ça, là. Tu sais, faut que je fasse
Ah non, mais
attention.
excuse-moi, j'ai
C'est
raté mon
symétrique.
anecdote, OK? Mon anecdote, c'est pas ça. Parce que
Ah ouais.
j'ai étudié ta carrière, puis c'est pas comme Cutman, c'est comme quand tu fais les gants que
Quand je
ça
fais les
peut
mains.
être long.
Ah, quand je fais les unwrap.
On m'a dit que c'était parfait. La job était parfaite, mais c'est long. Puis on va en parler tantôt, ça c'est une science, OK? Les meilleurs gars de main, ils veulent pas donner leur truc à personne. Tu sais, mettons que tu dis à Sam, hey, on peut-tu filmer, là, puis mets du tape en haut de ma main. Non, 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 moi je parle pas. Je partage pas mon temps, ça, c'est.
On va en reparler parce que moi je suis pas de cette école-là.
OK, ça, c'est une autre école. Sinon, attends, là, t'as tellement de chapeaux, là, ça, c'est effrayant.
En tout cas, là, j'ai une casquette ce soir, mais
Non, non, mais je parle des chapeaux en voulant dire des métiers. Là, t'as.
j'ai travaillé comme matchmaker aussi.
Oh, attends, je l'ai mis ici, j'ai ta carrière tout ici, regarde ça.
OK.
Comme j'ai marqué chargé de projet chez Rival Boxing parce que je trouvais pas tes. tes fonctions exactes?
J'ai fait plusieurs choses chez Rival. Je travaille un petit peu avec les boxeurs. Il y a Marie-Josée Castellon aussi qui fait ça maintenant. On a commencé ensemble. Là, moi, la carrière d'entraîneur, si on veut, là, a un petit peu trop de temps. Alors, parce que j'ai donné un coup de main sur les médias sociaux. Mais là, il y a Sharon qui prend la relève. Fait que je suis là un petit peu partout, mais je n'ai plus vraiment de rôle hyper précis.
OK, OK. Tu as été aussi traducteur.
Mais par exemple, si vous voulez acheter chez Rival, allez sur leur site Internet, utilisez le code promo SAM10, ça va vous donner 10% de rabais. Puis pour toute livraison de 50$ et plus, pour toute commande de 50$ et plus, la livraison est gratuite. Fait que c'est quand même un bon deal.
Ouais, puis si vous commandez pour 1000$, Sam vient directement chez vous le porter. t'es aussi traducteur, tu parles, le monde ne savent pas ça, tu parles 3 langues. Français, anglais, espagnol. D'habitude, les gens qui parlent 3 langues, ils en apprennent tout le temps une 4e sur le côté. Qu'est-ce que tu es en train d'apprendre présentement?
J'aime beaucoup le créole. J'aime beaucoup le créole.
À cause mais que t'aimes les femmes qui viennent avec ou c'est parce que mais tu...
En ce moment, la seule chose que je pourrais te dire, c'est « pas parler créole ». C'est-à-dire que je ne parle pas le créole encore.
OK, OK. Sac à fête. t'es mannequin aussi. T'as été mannequin. T'as été restaurateur. Moi, je connais. Il y a une époque où t'avais toute la... Tu contrôlais pas mal tout Beaubien West à une autre époque.
J'aime ça avec toi parce que c'est vraiment pas romancé. Là.
C'est du show business. T'as été le cousin d'Antonin Descaries, mais ça, c'est pas mal.
Ça, c'est vieux, ça. Là. Je sais pas si c'est encore vrai. Ça. Il va falloir check.
On va en parler. Polyglotte, c'est parce que tu parles plusieurs langues. Et t'es aussi un lobbyiste. Je me rappelle pas pourquoi j'ai écrit ça. Lobbyiste de boxe, ça se peut-tu, t'as-tu été impliqué pour ramener... Ah oui, j'ai marqué ça, c'est parce que les journalistes, il y a beaucoup de journalistes qui t'ont contacté parce que vu que tu parles bien anglais aussi, j'ai vu que t'avais participé un peu à la relance de la boxe. Il y avait Marie-Pierre Roule était allée à Québec avec Camille et Stéphane. Puis j'ai vu que toi, t'as donné des entrevues en anglais. C'est pour ça que j'ai marqué lobbyiste pour le retour de la boxe.
Écoute, j'ai juste manifesté mon mécontentement. J'ai pas vraiment. En fait, j'avais plein de solutions, mais j'ai pas vraiment pu les amener jusqu'au haut de la chaîne.
Là. OK. Juste te dire avant de commencer, là, j'avais préparé ça. On offre nos sympathies à Denis Hinze qui a perdu son père qui venait d'avoir 100 ans.
100 ans.
Denis, qui est à peu près un des messieurs, il est facile à reconnaître, là, il a une solide moustache, puis c'est probablement un des messieurs les plus gentils, faciles d'accès, que vous le voyez, lui aussi est dans tous les galas, donc on a une pensée pour lui. On revient sur ta carrière, Sam, tu as à peu près tout fait, là. Mais là, ta carrière d'entraîneur a vraiment, moi je dis qu'elle a décollé, dans le fond, tu travailles autant qu'avant, c'est juste que maintenant, on peut t'associer Arthur Biarslanov et Maïva Amadouche, qui n'est pas la dernière venue. Je veux que tu me parles de... On va y aller direct dans le vif du sujet. On va parler de boxe. Tu sais, tu m'as demandé de quoi qu'on allait parler. On va parler beaucoup de boxe. Okay? Des fois, reviendra à ton passé au travers là, parce que j'ai une feuille pleine. Là, Arthur Biarslanov, moi, je vais t'en parler. Moi, je suis excité, OK? Parce qu'il vivote entre les 135 et les 40. Ça, 140, ça va être à toi de me dire vers où il s'en va. Mais le sommet de la pyramide là, à 140, c'est Gervonta Davis, George Camboso Jr., Teofimo Lopez, Vasyl Lomachenko. Je pourrais rajouter comment il s'appelle, Devin Haney, Joseph Diaz.
C'est... À 135.
Ouais, c'est ça, ça va dépendre, là, mais c'est tout peut arriver. Ben,
135, 140, là, mais...
Mais là, t'es comme assis, un peu comme Picsou, là, t'es assis dans Fortune, là, des 140, puis t'as quand même un bon cheval là, pour aller contre eux autres, là, Arthur Biarslanov, c'est tout un boxeur, puis tu sais, je le vois rivaliser un jour avec ces noms-là. Je sais que c'est rapide dans la carrière. Puis toi, tu es l'entraîneur. Donc,
écoute, l'objectif...
Raconte-nous Biarslanov.
Ben, en fait, l'objectif avec Biarslanov, comme l'objectif avec tout boxeur, c'est de l'amener le plus loin possible. Donc, des fois, ça va être en fonction de leur potentiel. Des fois, ça va être en fonction aussi de la division dans laquelle ils sont. Tu as beau avoir quelqu'un d'hyper talentueux, si tu es dans une grosse division... Qui est très compétitive, ça peut être compliqué. Des fois, les chemins pour se rendre jusqu'au sommet peuvent être compliqué aussi. C'est-à-dire que là, il y a quelques boxeurs qui sont au top, puis tu sais, ils peuvent tous jouer aux alentours de ça. Pour en mettre un nouveau dans le mix, ça va être un petit peu compliqué parce qu'il va falloir qu'ils aillent battre un de ces boxeurs-là, mais souvent, les boxeurs qui sont au top, comme ça, ils vont choisir un petit peu leurs adversaires aussi. Donc, ça ne sera pas de tout repos. Mais, écoute, Arthur, c'est un boxeur qui est hyper sérieux. Il cogne vraiment, il cogne très, très fort. Là. Comme livre pour livre, là, c'est un des bons cogneurs là, dans le gym. Et puis, écoute, j'ai bon espoir. Il a eu un beau parcours amateur. La transition chez les professionnels se fait bien. Et puis là, l'objectif, dans deux combats, on aimerait ça. Là, ben en fait, pas ce combat, le prochain combat, mais l'autre d'après, on aimerait ça se battre pour un titre nord-américain ou quelque chose comme ça. Donc, on veut aller à la recherche des classements, le faire monter quand même assez rapidement, mais on ne veut pas sauter d'étape non plus. Alors, il va falloir être intelligent, bien placer nos pions et puis travailler de la bonne manière dans le gymnase.
Comment, comme entraîneur, tu sais qu'il est prêt à aller se frotter à l'élite? Est-ce que c'est en allant chercher des comparables, puis là, tu te dis, bon, il a gagné. Tu sais, exemple, Ulysse allait affronter Antonio Moran qui avait battu et qui s'était fait battre par Divine Année au 7e. Fait que moi, tout de suite, je me dis, OK, on va pouvoir placer Ulysse face à ces gars-là. Est-ce que toi, c'est ta façon de faire, c'est un peu la même chose en surveillant les comparables, ou est-ce que c'est justement en appelant Yves Ulysse, puis là, tu dis à Ulysse, pars après dans le ring, puis là, tu regardes ce que ça donne, puis là, tu te dis, bon, OK, ça, j'ai tel niveau, ou c'est vraiment, tu le découvres en même temps que nous autres un peu?
C'est une bonne question. En fait, il y a plusieurs manières de procéder. Dans mon cas, c'est sûr que je fais beaucoup d'analyses vidéo, donc tous les gars dans la catégorie, je les regarde. Je regarde comment ils réagissent, comment ils boxent face à tel style de position. Et puis après ça, ben, je prends des notes, puis je me fais un cahier. Puis là, ben, j'ai quel style de boxeur serait bon pour Arthur, quel style de boxeur le ferait moins bien paraître, le pourquoi aussi. Puis ça nous permet aussi de travailler des choses dans le gymnase. Puis aussi, à un moment donné, ben, si on est capable d'aller chercher des comparables, comme tu l'as dit, donc d'aller chercher un ancien adversaire, puis regarder comment on se débrouille. Mais souvent, par exemple, ce qui se passe quand on va faire un peu la règle des comparables, c'est difficile d'aller chercher dans une bonne séquence. C'est-à-dire que souvent, quand il va perdre contre un bon, il est probablement en fin de carrière. Là, il va peut-être aller chercher un autre ou deux autres bons juste pour augmenter son chèque de paye. Puis après ça, ben, quand tu le prends, il n'est plus le même boxeur qu'il était lorsqu'il s'est battu contre l'autre boxeur qui était prime. T'sais. Alors, le jeu des comparables peut être intéressant parce que tu peux voir comment il va se comporter, mais en même temps, c'est pas toujours valable parce que des fois, elles sont pas au même niveau qu'ils étaient là, il y a 2-3 ans.
Et j'aime ça que tu amènes ça comme ça parce que moi, quand je fais mes règles de 3, c'est quelque chose que j'aime, mais en même temps, je dis tout le temps aux gens à aller chercher les circonstances aussi. Tu sais, si c'était exact. Un adversaire de dernière minute, est-ce que tu as eu un camp complet? Est-ce que la personne a monté de catégorie de poids? Il y a tout ça à aller chercher. Et là, j'avais comme sous-question ça, si j'étais supposé te poser ça dans 26 minutes, mais là, tu en as parlé, je vais en parler. Tu étudies beaucoup de vidéos avec le crayon à la main. Exemple, toi, tu as un boxeur à 140 livres, 135 livres, donc tu écoutes tout ce qui se fait et tu prends des notes. Et là, j'ai su, en étudiant ton dossier, que sur Instagram et sur les autres sites, tu t'es fait une liste et tu regardes tout ce qui se fait, tous les entraîneurs, c'est quelque chose, t'es un étudiant de la game. T'as appris en regardant Marc Ramsey, je pense Sylvain Gagnon à l'époque aussi. Et là, tu peux vraiment aller faire ton scouting avec les internets.
T'sais, on est vraiment chanceux maintenant. Hein? Quand tu regardes dans le temps où, mettons, Ross Amber a commencé, ou même Marc, quand il a commencé, Marc Ramsey, pour avoir des nouvelles techniques, il fallait que tu ailles dans différents gyms, puis il fallait que tu observes. Alors, quand tu regardais qu'est-ce qui se faisait au Québec, ben, tu avais la version, tu avais une vision québécoise, canadienne, disons, mais ça ne disait pas qu'est-ce qui se passait en Europe, qu'est-ce qui se passait aux États-Unis, puis c'était des styles de boxe complètement différents. La boxe américaine puis la boxe européenne, c'est des styles qui sont vraiment différents. Alors, même si tu regardes la boxe sud-américaine aussi, c'est un autre style qui est différent. Maintenant, avec les réseaux sociaux, tu as la chance d'avoir accès à tout ça. Puis, c'est comme un peu une bibliothèque. Alors, tu as une richesse qui est là. souvent, elle est utilisée à tort, mais ça peut être vraiment utile à d'autres égards. Alors, ouais, j'adore étudier tout ce qui se fait. Puis, tu sais, des fois, je vois des exercices qui sont hyper intéressants, mais pas utilisés de la bonne façon. Et puis, d'autres fois, je vois des exercices qui sont très bien puis qui pourraient être bonifiés. Alors, tu sais, je me sers un petit peu de tout ce que je trouve pour mettre des outils dans mon coffre. Puis, ben, à la fin de la journée, c'est les boxeurs qui en bénéficient.
Et tu commences à parler un peu comme Marc Bergevin en entrevue, tu sais.
Ça va, moi,
à la fin de la journée.
J'espère que je vais avoir la même shape que lui aussi à la fin de la journée.
Il y a des bons bras. Ça, c'est. Ben, moi, je vais compter l'anecdote. Quand tu nous avais. À un moment donné, moi, puis Vincent Tremblay. Quand Vincent Tremblay est en ville, on aime ça se promener. Puis on était rentré chez Rival, puis tu étais à la dernière minute. Il fallait que tu t'en ailles à quelque part. Puis tu nous as consacré du temps, puis tu nous as montré toute la place. Tu m'as même frappé qu'un plastron. Non, tu as frappé Vincent, je pense qu'il y avait un plastron.
Ça se peut.
Ouais, tu nous avais reçu, tu nous avais tout montré l'entrepôt, les gants, les affaires. T'es probablement, là, puis je dis ça à chaque personne que je reçois, la personne la plus gentille de la boxe québécoise. Tout le monde. Mais là, le monde, ils ne savent pas, tu as été matchmaker pendant 12 galas. Okay? Puis là, maintenant, j'ai compris que tu es comme encore matchmaker, mais le monde ne le savent pas. C'est parce que souvent, tu vas étudier, mettons, l'adversaire, on va dire. Simon Kane a un adversaire, tu vas étudier l'adversaire, puis là, tu vas faire aller des contacts pour trouver du sparring qui ressemble à l'adversaire. Fait que tu fais comme du matchmaking de sparring aussi.
Oui, ben je fais aussi du matchmaking. Tu vois, comme le dernier show de Eye of the Tiger à Québec, ça avait été vraiment difficile parce que tous les gars, là, ça tombait comme des mouches. Puis avec les restrictions sanitaires, ça avait été vraiment hyper, hyper compliqué. Et puis, finalement, bon, Tepper, c'est moi qui avais booké ce combat-là. Je pensais que ça allait donner plus de rondes que ça parce que sur papier, il allait sur papier. Puis, c'est sûr, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas boxé, mais à cause de la pandémie, il y a beaucoup de monde, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas boxé. Chez les poids lourds aussi, c'est une catégorie où le vieillissement arrive plus tardivement. Donc, je pensais qu'elle allait donner quelques bons rondes à Arslan Beck. Puis, d'un autre côté, on voulait aussi qu'Arslan Beck fasse quelques rondes. Puis, petite anecdote, juste pour ça, quand le combat s'est terminé, Marc il a un peu engueulé Arslan Beck parce qu'il voulait qu'Arslan Beck prenne plus son temps que ça. Hey, j'ai reçu un coup de poing, là. Je ne vais pas me laisser frapper par ce gars-là. Ça fait mal, là. C'est de la boxe qu'on fait, là. T'sais. Fait que là, OK, c'est vrai. Fait que Tepper, malgré le fait qu'il n'a pas fini, qu'il n'a pas passé le deuxième round, il avait quand même atteint Arslan Beck. Puis Arslan Beck a dit, tu sais, on est chez les poids lourds, n'importe quel coup de poing pour faire des dommages. J'avais fait ça. Puis l'Andetta aussi pour Christian. Tu vois, Christian, on avait perdu son adversaire. Son adversaire, avant aussi, c'est moi qui l'avais trouvé. Puis, à un moment donné, il a juste arrêté de répondre au courriel quand il s'est rendu compte de tout ce qu'on devait faire pour les mesures préventives, le sanitaire de la COVID. Il a juste arrêté de répondre, puis il a disparu. Fait que là, ça arrive dans le matchmaking des fois. Tu te fies sur la parole des gens, tu sais, puis c'est pas à tout casser. Donc, là, à l'intérieur d'un... L'Andetta, il se préparait déjà pour un autre combat. Puis c'est un gars qui est tout le temps en forme. Donc, lui, il devait se battre, je pense que c'était 3 semaines plus tard. Il a cancellé ça. À l'intérieur de 24 heures, il était dans un avion. Puis on avait fait tous les tests, là, et tout. Donc, tu sais, je continue à faire du matchmaking quand, disons, Stéphane Loyer, à un moment donné, et on se parle. Puis là, il est comme ça, là, en ce moment, ça... Tout tombe. Si jamais tu as quelque chose, fais-moi signe. Alors là, je regarde de mon côté, puis je lui donne un coup de main. Sinon, ça m'est arrivé aussi de booker des combats là, aux États-Unis ou même en Europe avec des contacts que j'ai. Et puis, mais je fais pas ça à temps plein. Là.
OK, il y a Costa qui rit de mes étiquettes dans ma casquette, mais c'est une casquette neuve que j'ai sortie juste pour te recevoir, toi. Ouais, fait que c'est ça, le matchmaking. Y a-tu... Là, moi, j'essayais de comprendre l'organigramme, OK, de Ramsey Boxing. Là, j'ai en haut, tu sais, j'imagine que Marc Ramsey, vu que la compagnie apporte son nom, puis là, ben, apporte pas son nom, mais la compagnie d'entraîneur, là. Mais ouais. En dessous, est-ce que toi puis Luc, tu sais, vous êtes toujours comme ensemble avec Marc, Ou Marc, ça peut arriver, mettons, qu'ils établissent un plan, puis là, c'est toi qui pars avec le plan, puis le boxeur, puis là, lui, il est l'autre côté. Parce que moi, je pensais que Luc travaillait plus avec les Russes, vu qu'il a l'air à parler russe, puis toi, tu travaillais plus avec les boxeurs qui parlaient espagnol. T'sais, est-ce que je me trompe ou la langue qui rentre en ligne de compte?
Tu te trompes, oui, puis non. C'est-à-dire que ça arrive des fois qu'on a des combats en même temps, alors on va diviser l'équipe. Même des fois sur les préparations, au niveau de l'horaire. Surtout avec les mesures COVID, on essaie de ne pas entraîner tout le monde en même temps. C'est tout, chaque gars a son heure. Fait qu'on essaie de diviser ça. Je te dirais que Luc et moi, on a des styles un petit peu différents. Il peut arriver que certains boxeurs européens aiment une approche un petit peu plus classique. Alors que moi, comme j'étudie beaucoup, je te disais, on en parlait tantôt, beaucoup de vidéos. Des fois, j'aime un petit peu plus du new school. Donc, des trucs qui sont moins conventionnels, mais que je sais qu'ils vont fonctionner. Alors, des fois, Luc va travailler plus avec certains boxeurs européens, mais je dis européens, c'est pas vrai. Luc, il travaille juste un peu plus avec Arthur Beterbiev, si on veut. Mais le matin, Beterbiev vient me voir parce que Beterbiev, c'est un peu un malade de l'entraînement. Là. Que dans ses journées off, il vient au gym pour qu'on travaille ensemble juste sur du no contact. Donc, je fais des déplacements, je lance des coups, on fait des répétitions ensemble. Donc, on travaille juste différemment, mais on travaille sensiblement le même nombre de temps avec les boxeurs. Luc et moi. Puis, on a une super, super complicité dans l'équipe. Il y a Vincent Auclair aussi qui nous donne un gros coup de main parce que des fois, justement, quand il faut envoyer des équipes à droite puis à gauche, c'est le fun de pouvoir compter sur plus qu'une personne. Puis, d'un autre côté aussi, il y a Jesse Thompson qui, dernièrement, là, s'est joint à l'équipe parce que, bon, c'est une équipe qui grossit, puis qui est quand même assez grosse. Puis, comme on a beaucoup de choses, c'est le fun de pouvoir avoir tout le temps un minimum de 3 personnes en qui tu as confiance dans le coin.
Oui, j'avais 2 sous-questions là, je vais te poser. Mais la première, c'est juste une anecdote. En étudiant ton dossier, j'ai vu que Marc, dans le fond, tu traînais au gymnase à regarder Antonin puis Marc Ramsey travailler. Puis là, un jour, Marc t'a comme pris sous son aile, puis je pense qu'il t'a comme engagé un peu. Et là, si je comprends bien, toi, pour parfaire ta boxe, tu étais allé à Québec. Là, tu as étudié ce que tu pouvais étudier, la psychologie, des affaires en santé. Tu essayais de trouver des affaires connexes à la boxe tout en voulant t'assurer une stabilité pour pouvoir avoir un emploi de professeur si ça ne fonctionnait pas. Donc, on parle quand même. Tu es un gars dédié. Hein? Tu as déménagé, tu es allé à l'école, tu es allé chercher à travailler avec là-bas. Tu as travaillé avec Rémi Vizier, tu as travaillé
exact,
avec.
Exact. Tu sais, en fait, j'ai commencé, justement, j'allais au gym avec Antonin, puis à un moment donné, je parlais un petit peu de boxe avec Marc. Dans le temps, il y avait le forum sur la zone de boxe aussi. Je lisais beaucoup là-dessus, puis j'avais commencé à étudier tout ce que je pouvais sur la boxe, en commandant des Ring Magazine, en commandant des cassettes VHS de différents combats. Après ça, il y a les torrents qui sont arrivés. Là, j'avais des amis qui m'envoyaient des combats là, par ça. Puis, là, c'était la vieille connexion Internet là, par téléphone. Fait que je me laissais ça toute la nuit pour que ça download.
Puis, là, incroyable, hein, oui. Dans ce temps-là, il fallait que tu download toute la nuit. Puis aujourd'hui, tu peux nous parler en direct d'un Saint-Hubert sur le bord de la route.
Exact. Fait que c'est quoi déjà la question? Là, je me suis égaré un petit peu.
Ma question, c'est que tu es allé à l'université à Québec. Donc, tu prenais des cours comme connexe à ton éventuel métier d'entraîneur.
C'est ça. Je voulais pas être étiqueté dans la boxe parce que j'étais le cousin d'Antonin. Tu sais, je considérais que j'avais une certaine facilité à analyser la boxe et puis à lire les combats. Puis justement, en discutant avec Marc, des fois, il me demandait mon avis. Puis là, à un moment donné, il m'a dit « OK, mais ça te tente-tu de travailler avec moi? » J'ai commencé à travailler avec lui un petit peu, à temps partiel. Puis là, ben justement, il m'a dit, c'est même lui qui me l'a dit. Il m'a dit, tu sais, si jamais tu veux pas être étiqueté vraiment juste à moi. C'est bon de voir d'autres choses aussi. Pas peur, là, si tu veux aller aux États-Unis, regarder ce qui se passe dans d'autres gyms, si tu veux aller dans d'autres villes, si tu veux aller avec d'autres entraîneurs. Fait que, ben, c'est ce que j'ai fait. Je me suis expatrié à Québec. J'ai étudié en enseignement de l'éducation physique et à la santé pour ensuite enseigner un petit peu pendant quelques années. J'ai aussi pris, j'avais des cours crédités parce que bon, j'avais déjà étudié par le passé. Donc, tous les cours, tous les crédits que j'avais, j'ai repris soit des cours en médecine, en physiothérapie, en psychologie sportive. Donc, j'ai vraiment essayé d'aller chercher et de maximiser mon bagage de boxe. Alors, c'est un petit peu qu'est-ce qui s'est passé. Puis là, à travers tout ça, j'ai rencontré Rémi Bizier. Vraiment, Rémi m'a grandement aidé, il m'a fait confiance. Puis il a vraiment été là, une plaque tournante pour moi parce que on est devenu partenaire pour le gym. On a fait plusieurs galas ensemble, on a travaillé ensemble avec plein de boxeurs. On a fait des champions canadiens avec Vincent Auclair aussi. Vincent Auclair qui était boxeur quand j'ai commencé. Et puis éventuellement, il est devenu entraîneur. Lui, il étudiait en intervention sportive. Il s'est joint à l'équipe. Donc, ça a fait un beau mix parce que il y avait le côté un petit peu plus scolaire qu'on ajoutait à la boxe. Donc, une boxe un petit peu plus éduquée plutôt que rough.
Hey, t'es vraiment un gars de famille. Hein? T'es parti de où t'étais avec ton cousin à Montréal pour aller rejoindre les Bizier là-bas. Je pense Sandra, Yannick, Kevin sont combien eux autres? Le père, le grand-père, je dis.
Ben, ils sont quatre. C'est-à-dire que t'as les jumeaux Yann et Yannick. Kevin et Sandra aussi. Mais oui, ils ont tous boxé. Puis non seulement ils ont tous boxé, mais ils ont tous eu des bons résultats aussi. Là,
ils ont tous été très bons comparativement à toi, qui n'a pas de combat amateur, selon mes sources.
Exact, exact. Je vais t'expliquer un peu l'histoire aussi de ça. C'est que moi, j'ai joué au tennis. C'était mon sport. Puis j'avais commencé à boxer un peu avec Antonin, puis tout ça. Puis j'aimais ça. Mais un jour, il y a un de mes entraîneurs qui m'a dit « Ouais, mais là, si tu te blesses aux mains, tu peux plus jouer au tennis. » Fait qu'il m'avait interdit de jouer au tennis. Pas de jouer au tennis, de boxer. Puis là, j'ai essayé de leur expliquer que c'était vraiment bon parce que moi, je voyais beaucoup d'habiletés qui étaient transférables. C'est-à-dire que, bon, c'est un sport duel. C'est aussi un sport où tu as besoin d'une bonne coordination au niveau des yeux et des mains. C'est beaucoup de déplacements, donc le jeu de pied est très, très bon.
Tu peux attacher la balle après ta casquette là, pour pratiquer. Tu as déjà la balle, toi.
C'est ça. Donc, bref, il y avait plein de trucs qui pouvaient m'aider à améliorer ma game, mais finalement, ça n'a pas passé, donc j'ai dû arrêter.
Tu sais quoi la différence entre un revers à la boxe et un revers au tennis?
Oui.
La boxe, le revers fait beaucoup plus mal à ta fiche que juste...
à la fiche.
Je veux te parler, okay, moi, il y a une affaire que je suis curieux, mais dans le fond, je me doute de la réponse, mais je veux que tu nous l'expliques plus loin que moi. Arthur Béterbiev, dans un gymnase, ça doit être impressionnant pour les nouveaux. Puis, je veux vérifier une rumeur, puis après ça, je veux que tu nous parles de l'impact de Béterbiev. Moi, on commençait avec l'impact de Béterbiev. Moi, j'imagine, tu dis le gars, il rentre s'entraîner quand il n'est pas cédulé, puis il est champion du monde. Fait que j'imagine que la plupart des boxeurs qui boxent avec vous autres, leur idée, c'est d'aller le plus loin possible, puis de ce qu'ils peuvent donner. Il y en a qui peuvent être champions du monde, il y en a qui peuvent être champions canadiens, ce serait un grand accomplissement aussi. Mais J'imagine que quand tu as Béterbiev devant toi, tu fais « OK, si je veux pratiquer ce sport-là sérieusement puis réussir, ben lui, il est en train de montrer le chemin puis comment ça marche à l'entraînement, puis j'ai pas le choix d'être sérieux. » Est-ce que c'est vrai que la rumeur que, tu sais, avant que Béterbiev arrive, c'était la musique rap dans le gymnase puis tout, puis là, lui, il a débranché la radio, puis il a dit « Nous, on vient ici pour travailler, puis c'est fini le party, puis Béterbiev va amener comme un peu de rigueur soviétique à Montréal.
» En fait, tu sais, dans les gyms en Amérique du Sud, il y a beaucoup de salsa, de la musique. Puis là, on avait Oscar et les deux, puis eux, ils mettaient tout le temps de la musique. Même Jean-Pascal mettait de la musique pour s'entraîner. Marc, souvent, voulait fermer la musique parce que, bon, dans un gym, il y a déjà la cloche, il y a déjà le son des sacs et tout. C'est pas super bon pour les oreilles, là. Et puis, bon, Là, une fois de temps en temps, Marc faisait une journée pas de musique. Il disait, non, pas de musique aujourd'hui. Mais quand Arthur est arrivé, effectivement, Arthur a expliqué ça. Il a dit, moi, quand je viens ici, j'ai, mettons, 2 heures dans ma journée qui est consacrée à la boxe. Ben, elle est consacrée à la boxe à 100%. Je veux pouvoir me concentrer à 100% sur ce que je suis en train de faire. Puis c'est la raison aussi pour laquelle Arthur, il lui demande souvent de s'entraîner seul. Il veut pas s'entraîner avec d'autres gens. Il dit, moi, je fais un entraînement public, puis c'est avant mon combat. Le reste du temps, là, je travaille pour être le plus sharp possible, pour être le plus affûté possible. Fait que, bon, c'est pas... pour moi, c'est pas de musique, pas de caméra, pas de gens qui ont pas d'affaires là. Il fait son travail, puis il est conscient que c'est un travail qui est sérieux, parce qu'à la fin de la journée, ben, t'es dans le gym, t'es dans le ring, puis tu manges des coups. Ben, c'est ta santé et ta vie qui est au bout du fil à chaque fois. Fait que, faut que tu sois sérieux.
Est-ce que tu as côtoyé plusieurs champions du monde, mais plusieurs. Tu n'étais pas loin de David Lemieux, tu n'es pas loin de Marie-Ève Dicker, tu n'es pas loin d'Oscar Rivas. Et là, on vient de parler de Beterbiev. Est-ce qu'il y a, dans l'éthique de travail ou dans leur façon de dédier leur vie à leur sport pendant un laps de temps. Tu sais, une vie, ça dure 80 ans. Une carrière de boxe, ça peut durer entre 8 et 10 ans pour les champions. C'est un moment où tu es dédié, puis ça a pas mal, tu penses juste à ça. Est-ce que tu remarques des similitudes entre ceux qui réussissent à être champions? Comme il n'y en a plus de niaisage, tu peux pas aller à la taverne le soir ou courir sur le bord d'une plage avec un 41. Là.
En fait, c'est que c'est toutes des têtes très fortes. C'est tout du monde là, qui, à certains égards, ont, comme il dirait dans les boys, là, une dureté du mental vraiment impressionnante.
Mental toughness.
Oui, exact. Donc, ça prend quelque chose de spécial pour devenir champion. Si t'as pas ça, si t'es pas prêt à souffrir, si t'es pas prêt à continuer quand les gens te disent d'arrêter, ça va être difficile.
Puis as-tu remarqué que c'est autant dans la victoire que la défaite? Moi, il y a une affaire qui m'impressionne vraiment, puis je vais te le raconter. David Lemieux, il perd contre Golovkin, puis on va le dire, là, il a mangé. Moi, je trouve qu'il en a mangé une solide. Là, tu sais, c'était, il swing Golovkin, on était au sommet. Le lendemain matin, je retournerai. Tu sais, il n'y a aucun problème. Moi, je pense que ça aurait dû continuer. Marie-Ève Dicker, moi, je trouve qu'elle a bien paru contre Shields, puis peut-être même que les juges, ils auraient pu en donner un là. Mais, tu sais, est allé contre... Clarissa Shields, c'est un extraterrestre, là, tu sais, c'est la meilleure de tous les temps. Elle y retournerait demain matin, tu sais, elle mène un contrat, puis elle rentre dans le gymnase. Ça m'impressionne. Le mental, ils sont pas... Les athlètes d'élite, puis ceux qui réussissent, sont pas construits comme moi. Tu sais, moi, je sors dehors, fais un peu fret, là, si je referme la porte, puis je dis, je sors pas d'ici avant demain, tu sais. Eux autres, c'est des machines, tu sais, je sais pas si tu te rappelles, c'est toi qui avais mis la vidéo... Et Lander Alvarez voulait absolument s'entraîner dans le verglas. Mais il glissait, genre, il risquait. Je te dis, j'étais sûr qu'il allait se tuer. Mais j'étais surpris que tu n'as pas été le chercher parce que. Il y avait un gros combat qui s'en venait. T'sais, il aurait pu tomber, se faire mal au dos.
Contre Lucian Bouté, on s'en allait faire ses médicaux, puis après ça, on s'en allait à l'entraînement.
Je veux m'entraîner. La ville était fermée au complet. Il n'y avait plus d'électricité nulle part. Puis là, tu entendais juste. Et Lander, je veux m'entraîner. Je vais te parler des boxeurs un peu comme ceux qui ont de l'actualité. Là. Oscar Rivas.
Oui.
J'ai hâte de voir la suite des choses. Je veux pas que tu me donnes de secrets, mais comment tu vois ça, le règne d'Oscar? Là, on a entendu des rumeurs avec, Allen le Sauvage Babic en Angleterre, un protégé d'Eddie Hearn. Il y a toujours Romanov. C'est comment travailler avec Oscar? Puis est-ce que tu as eu des moments, peut-être toi ou Marc, que vous avez eu besoin de garder motivé parce que ça a été. On oublie que ça a été long. Là, Yvon Michel avait un plan. Visiblement, ça a fonctionné. Mais sur le 12 ans du plan, des fois, ça a paru long.
Oui. En fait, la première chose, c'est qu'il faut lever notre chapeau à Oscar parce que c'est lui qui aurait pu abandonner à tout moment. T'sais. Mais c'est ça aussi la mentalité d'un champion. C'est pas abandonner face à l'adversité. Il y a eu beaucoup de blessures à ce sport, il n'a pas été chanceux. Ils ont eu à un moment donné, il y avait des problèmes de visa, il y avait des. Comme, ça a été hyper compliqué. Il y a des années où il ne s'est pas battu parce que justement, il ne pouvait pas se battre, soit une blessure, soit un problème de visa et tout ça. Mais ils sont tout le temps restés dans le gym, puis pour eux, tu sais, Oscar, il dit souvent ça à la blague, mais en même temps, c'est super vrai. Il dit, quand j'étais petit, ma mère, elle me disait, va à l'école, va à l'école. Puis là, Oscar, il dit, non, je veux boxer. Ben, si tu boxes, t'es mieux de devenir champion du monde. Fait que, travaille fort. Fait que, puis la réalité aussi, c'est que, tu sais, les gars, ils ont tellement investi dans la boxe qu'arrêter sans être champion, à un moment donné, c'est le devoir non accompli. Puis c'est, si t'as pas l'impression d'avoir tout donné, tu vas avoir des regrets tout le reste de ta vie. Fait que, à partir du moment où tu penses que t'as tout donné, puis que t'as jamais, comme, tourné les coins ronds, puis que t'es pas allé au bout de ce que tu pouvais faire, ben, tu vas tout le temps vouloir remonter dans le ring, puis ça sera pas nécessairement bon. Alors que, à partir du moment où tu as un devoir accompli, à ce moment-là, c'est plus facile de se retirer de la bonne façon.
Est-ce que t'es impressionné par la loyauté de ces deux gars-là? Tu sais, les deux Colombiens sont arrivés ici, les deux ont subi la défaite. Oscar, c'est fâchant, là, on pourrait sacrer jusqu'à demain. Mais tu sais, il y a eu des moments où Elider devait être en maudit un peu parce qu'il n'obtenait pas son championnat du monde. Jamais je les ai entendus se plaindre. Elider, il me disait tout le temps, « Ah, il y a un proverbe dans mon pays qui dit « Tant que tu as un café le matin », puis il réussissait à s'accrocher après ça, puis à attendre, même si des fois, il trouvait ça long. Ces deux gars qui sont loyaux, on n'a jamais entendu parler, tu sais, ben, Elider, c'est arrivé un peu par la force des choses, un changement d'entraîneur, mais tu sais, sa majeure partie de sa carrière, il va être associé à Marc Ramsey et à Yvon Michel. Ils ont comme une loyauté. C'est vraiment deux bons vivants, mais ils n'ont pas de malice.
Exact. Ben, en fait, ils ont été très reconnaissants là, de tout ce qui a été fait pour eux, autant par Yvon, autant par Marc, autant par Stéphane Lépine. Puis en plus, les gars, ça, ce qui les aide aussi, c'est qu'ils sont quand même très catholiques. Et puis eux, à un moment donné, ils se disent, ben, tu sais, il n'y a rien qui arrive pour rien. Si c'est ce que Dieu veut, ben, écoute, c'est ça. Puis c'est la même chose un peu avec Arthur Beterbiev. Tu sais, Arthur, il a eu des complications dans sa carrière avec des combats, avec la promotion, avec ci, avec ça. Et là, ben, Arthur, à un moment donné, il était comme, écoute, si Dieu veut que j'arrête de boxer, ben, moi, je vais arrêter de boxer. C'est pas plus. Là, tout le monde fait, ben, non, c'est pas ça qu'on voulait dire, mais là, ben, regarde-moi, c'est.
Mais moi, j'ai du respect. Moi, j'ai du respect pour ça. Tu sais, quand il voulait juste comme il dit, oh, moi, j'irai pas en Chine, genre, je vais vous redonner la ceinture, ça me dérange pas. J'aime ça, les gens de conviction qui, tu sais, ils sont comme inébranlables. Je trouve que ça doit faire partie aussi de la mentalité d'un champion. Et là, je vois le temps passer, je vais tout de suite descendre deux, trois questions.
Attends, mais rapidement, je vais juste te faire une courte anecdote par rapport à ça.
Ok, vas-y, donne le temps.
À un moment donné, Arthur, il devait se battre pour des titres nord-américains. Puis là, il fallait qu'il paye les frais de sanctions. Puis là, quand il a vu la facture des frais de sanction, il a dit non, regardez-les, vos ceintures, j'en veux pas. J'ai pas besoin de ça, moi, comme c'est correct. Fait que pour lui, les ceintures, c'était pas important. Lui, ce qu'il veut, c'est devenir champion. Puis, fait que je trouvais ça quand même assez drôle. Là, que...
J'aurais tendance à dire la même chose que lui, mais malheureusement, tu connais ta boxe toi aussi. Des fois, c'est un bon raccourci de payer les frais de sanction. Mais là, on pourrait faire une émission spéciale sur les frais de sanction. Ce sera la semaine prochaine. Je veux que tu me parles de Ross Amber. Tu sais, Ross, moi, je le connais pas autant que toi, mais je trouve là, qu'il a l'air d'un bon vivant, mais qu'il a l'air d'avoir du caractère aussi. Il a l'air d'être capable d'avoir du caractère. Comment Ross Amber arrive là, dans ta vie? Parce que, tu sais, il me semble qu'il y a beaucoup de Marc Ramsey, mais là, dans le fond, tu travailles avec Ross Amber.
Tu vois, tantôt, on parlait des champions. Ross a entraîné des champions. Tu peux pas faire ça si tu n'as pas un caractère. C'est la même chose. Okay. Tu as besoin d'avoir un caractère, tu as besoin d'être capable de mettre ton pied à terre, tu as besoin. Puis Russ, il n'est pas très grand, là, mais quand il décide de se fâcher, tu vas mesurer 8 pieds, tu vas devenir grand même dans tes culottes. Là, fait que tout ça pour dire que Russ, c'est tout un personnage. C'est quelqu'un qui a accompli des choses hyper admirables dans le monde de la boxe. Autant comme Cutman, autant comme entraîneur. Il a été analyste aussi, il a été gérant, il a fait un paquet d'affaires. Il connaît pas mal tout de la boxe. Puis,
mais l'homme d'affaires même... aussi.
Exact.
C'est génial en fait, ce qu'il a fait.
Ça, lui, il avait commencé à vendre du stock dans son garage. Puis à un moment donné, il n'arrêtait pas de chialer sur les gants. Puis Marc Ramsey, ça c'est peut-être une légende là, que Marc il me raconte. Là, mais Marc, il dit à un moment donné, là, je dis à Russ, là, j'arrête donc de chialer sur ses gants, tout le monde, puis fais-les tes gants. Comme ça, là. Une fois que tes gants ils vont être faits, là, tu pourras chialer sur ceux des autres si ton produit est meilleur. T'sais. Là, Russ, il a dit, ah, OK, ouais, c'est bon. Fait que là, il a fait des gants, tu sais.
C'est pas fou comme idée. J'ai une question, moi, sur Marc Ramsey maintenant. Si j'ai préparé mes questions en avance. On dit souvent que Marc Ramsey, c'est un des meilleurs entraîneurs au monde. La preuve, il a été nominé par la WBC. Qu'est-ce qui fait que Marc est aussi bon? Est-ce que si tu avais une chose à mettre le doigt dessus, tu sais, est-ce que c'est qu'il est en constante évolution en voulant dire qu'il est tout le temps en train d'écouter tout ou c'est parce
C'est
qu'il est trop
l'organisation.
minutieux? Okay.
Non, non, c'est l'organisation. Toutes ces choses sont organisées, sont planifiées. Il va faire du recrutement, il va regarder qu'est-ce qui se fait ailleurs. Tout est planifié de main de maître. C'est un architecte.
OK. Puis, est-ce que c'est. Non, mais je veux savoir, est-ce que c'est parce que. Comment, quand tu dis ça, est-ce que c'est parce que tout est noté? Tu sais, je vais donner l'exemple. Mettons un boxeur, je sais pas, moi, il fait un sprint à telle vitesse, puis la semaine de. Il revient 6 mois après, puis il court plus vite, là. Il va avoir tout de suite, ça va apparaître parce que tout est noté, genre.
Ouais, en fait, on a souvent des exercices comme ça où on a des mesures, des trucs qui sont mesurables, quantifiables. Mais c'est pas juste, ça va au-delà de ça. Ça va au-delà de juste des exercices où il a pris des notes. Ça va avec la planification, ça va avec la gestion de l'environnement, ça va avec un paquet d'affaires. Mais pour ça, il faut que tu sois organisé. Fait qu'il faut que tu aies un cahier avec tes affaires, faut que tu aies un ordinateur qui soit bien ordonné. Faut que tu aies. Marc, là, il n'y a pas beaucoup d'entraîneurs qui sont comme ça, là. Il est un petit peu plus vieille génération, là, mais lui, il a tout le temps son pad, puis les entraînements sont tout écrits dessus. Moi, je le fais sur mon téléphone. Tout est écrit sur mon téléphone. Alors, mais Marc, lui, c'est vraiment. Des fois, il accroche ça avec du tape, puis là, on regarde, OK, tel gars, on est rendu là, on fait ci, on fait ça. Donc, c'est vraiment le côté organisationnel. Il peut savoir combien de rondes. Le sparring, il a fait par training camp. À quel moment est-ce que son gars était plus fatigué, pas fatigué? Qu'est-ce qu'il a mangé? Qu'est-ce qu'il a pris comme supplément? T'sais, il connaît tout de A à Z. Il gère vraiment bien l'environnement. Puis, il arrive à s'adapter face à tout ça parce que, justement, il a des notes du passé. Puis, ben, il prépare le futur avec ça.
Ouais, moi, c'est vraiment ce que j'apprécie aussi de lui, c'est qu'il est en train de former une autre génération d'entraîneurs qui vont le suivre, dont tu fais partie. Fait que, tu sais, tant qu'à avoir Marc, on va avoir plein de, ben, pas de futurs Marc, tu sais, pas de futurs Marc, mais de gens qui vont suivre, la génération qui suit. Pendant que tu es là, j'ai une question. Artem Oganessian, on l'avait perdu longtemps. Là, est-ce que tu l'as vu en gymnase? Est-ce que ça va tellement vite que tu es obligé de cligner des yeux parfois?
Ça va très, très vite. Hyper explosif comme boxeur. C'est vraiment le fun d'entraîner un kid qui est dédié, qui vient ici pour les bonnes raisons. Tu sais, c'est lui qui a décidé de venir ici. Écoute, j'ai bien hâte de le revoir en action. J'ai hâte de voir aussi qu'est-ce qu'on va être en mesure de lui apporter. Parce qu'il y a, il y a, il y a plein de qualités. Il y a des points qui vont être à travailler. J'ai hâte de voir comment on va être capable d'amener ça à bon terme.
OK, j'ai une question que je sais qu'elle va être difficile, là, mais question très difficile pour toi, puis tu n'es pas obligé de répondre. Si tu avais à battre Canelo Alvarez, est-ce que tu y vas A avec Christian Bilie à 168 livres ou B avec Arthur Beterbiev à 175 livres?
Pour
Ça, c'est une
l'instant, c'est
bonne question.
sans hésitation, j'y vais avec Beterbiev. Non pas que je ne crois pas en Christian.
Non, pour
Je crois que
l'expérience.
ça ferait tout un combat avec Christian parce que Christian est capable de. Il recule devant rien, puis il va être dans tes shorts pendant 12 rondes, puis il va lancer plus que 100 coups de poing par ronde. Fait que ça va être vraiment excitant. Mais Beterbiev est juste trop gros, trop fort. Tu sais, à un moment donné, on était au Mexique pour des combats de boxe. Moi, j'étais avec Sadridine pour son combat contre Dano. Et puis, il y avait le frère de Canelo, Rigoberto Alvarez, qui était là. Puis, on était assis ensemble après les combats. Puis, on discutait parce que je l'avais déjà fait venir à Montréal avant, quand je faisais du matchmaking pour d'autres gars. Mathias Konczewski. Après ça, il était revenu pour Mathias contre Lafrenière. Puis, à chaque fois qu'il vient à Montréal, il passait à me dire bonjour. Donc, après les combats, on était assis ensemble, on discutait. Il m'a dit, Alvarez, là, il est fort, hein? Ben, moi, c'est le gars le plus fort que j'ai vu de toute ma vie. Puis en plus, il y a des rumeurs comme quoi ton frère, il voudrait se battre avec. T'sais. Il dit, oh, non, je pense pas que ça va arriver. Là. Il dit, non, 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 on ne va pas aller dans cette direction-là. Fait que 2 jours après, Canelo, il disait ça haut et fort qu'il voulait affronter Peter Bievre, mais on a demandé d'envoyer des contrats, puis on n'a jamais rien su. Fait que,
Ah, c'est ça. Sont où les
moi aussi,
contrats?
j'affronte Tyson demain matin, j'ai pas de problème avec ça.
Oh, mais t'es ben trop petit. Hey, je te vois checker, mais je te vois, c'est pas du beau français, je te vois surveiller ta montre. J'imagine que
Non,
t'es
non,
pressé, OK,
non.
parce que
Écoute,
c'était.
Laurent, j'ai tout mon temps pour toi.
Okay, c'est encore du temps, je vais prendre un autre 10 minutes. Moi, je veux que que du positif, OK? Je veux que tu me donnes du positif à côtoyer Camille et Stéphane, puis du positif quand tu as côtoyé Yvon Michel. Parce que tu sais, toi, tu as tellement tous les chapeaux, probablement qu'un jour tu vas te ramasser promoteur ou propriétaire d'une compagnie. Qu'est-ce que tu irais chercher de Camille et Stéphane ou d'Yvon Michel qui donne un peu la raison de leur succès en affaires?
Mais tu sais, Yvon, c'est un rêveur. C'est quelqu'un qui est arrivé à mettre des choses en place alors qu'il n'y en avait pas. Il est arrivé de par ses contacts, de par son entre-gens, à réaliser des projets alors que même financièrement, il n'y avait pas nécessairement les moyens, mais il est arrivé à trouver les investisseurs et tout. Donc, puis il a amené la boxe. En fait, il a maintenu la boxe en vie pendant des années. T'sais. Il a créé un programme en boxe amateur. C'était probablement dans les dernières bonnes années là, de la boxe olympique. Après ça, il a amené ça chez les professionnels avec Lucas puis Wallet, avec Boxer. Puis ensuite de ça, bon, Interbox est venu là-dedans. Mais Yvon, c'est un peu un pionnier qui est arrivé à croire en ses rêves puis à les mettre en place. Donc, ce qui est impressionnant, Yvon, c'est comment il est allé chercher les différentes ressources pour mettre tout ça en place. Et puis, aussi sa qualité de bon parleur.
Ah
Si
oui.
tu t'assois avec Yvon, puis il veut te mettre quelque chose en tête, tu t'assois avec, puis ben là, OK, c'est ça. Donc, Yvon, pour ça, vraiment, là, c'est un homme exceptionnel. Sinon, Camille, c'est un homme qui est fonceur, qui a peur de rien. C'est un homme qui est hyper brillant, mais c'est aussi un homme qui a une mémoire phénoménale. Il croit beaucoup en son potentiel puis en tout ce qu'il peut faire. Alors, puis ben, lui, il veut être avec les meilleurs pour, comme, il veut compétitionner avec les meilleurs. Puis c'est un petit peu ce qu'il faisait un peu avec Eye of the Tiger. C'est tout le temps qu'on veut voir nos gars sont rendus où, puis il n'avait pas peur de les mettre au défi. Fait que ça c'est vraiment quelque chose d'admirable aussi là, de la part de Camille. Puis Camille, il a toujours. Il considère chacun des boxeurs comme ses fils. T'sais, dans le sens, il les traite vraiment bien. Il leur donne des allocations. Il s'assure qu'ils sont bien entourés, prépare leur après-carrière et tout. Donc, ça, c'est chapeau pour ça.
Ouais, je trouve les deux ont leurs qualités, là. Mais l'autre fois, j'ai pensé à ça. Si on pouvait les mélanger ensemble, on aurait le promoteur parfait, probablement. Parce que, non, mais Yvon a quand même un réseau de contacts impressionnant. Moi, ça m'a impressionné. Yvon, tu sais, il a compris qu'il n'y avait plus de billets à vendre, ben, à cause de la pandémie. Il s'est reviré, il a fait une entente avec Pro Bellum. Puis là, on le voit, tu sais, comme c'est ton boxeur d'ailleurs qui est avec Pro Bellum, Bjorkslanov, qui va être en demi-finale à Trois-Rivières, un combat de 10 rondes. Là, j'ai une autre question difficile pour toi. J'en avais une deuxième. Ça va être qui le meilleur entraîneur de la nouvelle génération, l'après Larouche Ramsey? Est-ce que ça sera simplement toi, Luc-Vincent Ouellet, Vincent Auclair ou Jesse Ross Thompson? Qui sera le meilleur des quatre dans 20 ans? Ça, c'est pas correct, ça.
C'est une bonne question. Écoute, je souhaite que chacun d'entre eux dépasse le premier à avoir atteint quelque chose. Fait que je crois vraiment là, que tous ces gars-là ils ont de quoi pour se rendre loin. Pour l'instant, il est encore tôt pour parler, mais c'est tous des gars qui ont une belle éthique de travail, qui sont dédiés, qui sont attentionnés, qui veulent le meilleur pour le sport, puis qui travaillent fort pour ça, puis qui veulent faire bouger les choses aussi, puis qui n'ont pas peur de prendre les moyens pour y arriver. Donc,
Vous êtes vraiment quatre, mais là, toi, t'es plus vraiment jeune, là, mais vous êtes quatre jeunes qui avez choisi le métier d'entraîneur parce que vous avez, tu sais, les quatre, vous avez décidé de, tu sais, quasiment de ne pas boxer puis de vous consacrer au métier d'entraîneur. Est-ce que Sadreddin Akhmedov est arrivé au Québec?
Écoute, il devait arriver hier, mais il y a eu un problème avec son billet d'avion parce qu'en ce moment, la situation du Kazakhstan n'est pas super évidente. Puis, je crois qu'à Francfort, il cancellait son billet. Il pouvait pas prendre le prochain vol ou quelque chose comme ça. Fait que les dernières nouvelles que j'avais de lui ce matin, il était en attente d'un billet d'avion, là. Donc, c'est ça. En ce moment, c'est parce que c'est dû à la situation au Kazakhstan.
Ah ouais, c'est vrai. Mais là c'est fini l'entrevue. Là, on va juste y aller en mode conclusion. Mais moi, je trouve, Sam, un commentaire. Tu sais, on a de la misère à vendre des billets avec la pandémie, puis tout. La boxe est comme sur arrêt pendant 2 ans. Puis toi, quand tu rentres au gym, tu peux côtoyer Beterbiev, Rivas, Marie-Ève Dicker, tu sais, Sadreddin Akhmedov, Arslanbek Makhmoudov, puis Artem Oganesian. Mais je suis d'accord avec la phrase que Camille dit toujours, c'est comme si j'avais repêché premier au repêchage, puis que j'avais encore repêché deuxième puis troisième. Tu sais, il y avait les trois premiers choix dans la même année des champions du monde. C'est fou quand même que la boxe est dans un creux de vague, mais les deux promoteurs, ils croient tellement qu'ils réussissent comme à rentrer beaucoup de gros talents. Puis, tu sais, moi, j'ai l'impression que Eye of the Tiger, Camille et Stéphane, ils ont probablement gagé sur les bons chevaux. Tu sais, Christian Billy, le talent saute dans les yeux. Arslanbek Makhmoudov, on le voit déclassé à la compétition. Là, Artem et Sadreddin vont rembarquer. On a Bazinyan. Le mieux s'en va sur Benavidez. Tu sais, on dirait que ça, peut juste bien aller.
Ben écoute, c'est beaucoup de travail dans le passé qui rapporte aujourd'hui. Là. C'est le dur labeur des dernières années, puis ça n'a pas toujours été facile. Mais les gens n'ont pas abandonné, ont travaillé fort, puis ben après ça, on récolte, ça fait des belles récoltes.
Il y a Costa Ananostopoulos en terminant qui veut savoir pour perdre de l'argent, qu'est-ce qui est mieux? Investir en boxe ou investir dans un restaurant?
Je te dirais, c'est pas mal la même chose, là. Les deux, là, c'est difficile.
C'est difficile, hein? On a les deux dernières années, là. Ça a commencé, je sais pas si tu te rappelles, ça a commencé un 14 mars, je pense, 2020. On attendait un combat, je me rappelle, Léla, Mathieu puis Steven Butler attendaient leur combat. Ils ont appris que c'était fini. Ils ont annulé le 12, le 14, tout a tombé. Il y avait Beterbiev à la fin du mois.
Deux shows de boxe en 24 heures. Puis ça a été cancellé cette journée-là.
Mais on avait la fin du mois à Québec avec Beterbiev qui a affronté Meng. Puis tout s'est écroulé. On n'est pas capable de reprendre du momentum. Là, tu sais, je ne sais pas si tu as vu Bazinyan, tu es supposé affronter DeAndre Ware. Là, Ware, c'est un pompier, il a une vraie job. Fait que là, ça n'était plus capable de prendre ses congés. Ah, oh, c'est un infirmier. Je pensais que c'était The Axeman.
Non. Lui, il a même déjà sauvé un gars chez Top Rank parce qu'il est en train de faire un arrêt cardiaque.
Il s'en allait affronter Vladimir Chichikin, puis il a sauté en bas de.
Ouais.
Ça, c'est de la bonne promo, hein. Tu sauves une vie.
Mais tu sais quoi, pour revenir à la question de Costa, là, François Diguet, il avait une bonne réponse. À un moment donné, il m'a présenté un des investisseurs qu'il y avait dans un club de boxe avec François Diguet. Il dit sais-tu comment ce gars-là est devenu millionnaire? Avec la boxe. Là, j'ai dit non, vraiment. Il dit, ben avant, il était milliardaire. Il a commencé milliardaire.
Non, mais ça, c'est une vieille joke de Gilles Latulippe. OK, je vais te la compter. Je vais te compter l'original. C'est, tu sais quoi, le meilleur truc pour devenir millionnaire? Tu commences milliardaire, puis tu te maries. on finit sur une joke. Fait que merci d'avoir été là. Puis, ben, on fera une partie 2 dans 6 mois, puis une partie 3 dans 1 an, parce que j'ai plein d'affaires à te dire. Là, tu es au Saint-Hubert, qu'est-ce que tu vas commander?
Ben, en fait, j'ai déjà mangé parce que j'étais un peu stressé avec mon temps. Là, je suis à Berthierville, je suis en direction pour Québec, puis j'avais peur de ne pas arriver à Trois-Rivières à temps. Fait que j'ai arrêté ici, j'ai mangé avant, puis le restaurant est fermé. Là, je suis tout seul ici, il essaie de me kicker dehors depuis tantôt.
Ah oui, ils doivent te trouver drôle. Hey, merci d'avoir été là dans des conditions terribles, puis on se reparle bientôt.
Salut, okay. Sam. À bientôt, là. Bye-bye.